Non, c'est pas fermé. Hein. Le commentaire de ma tante Una, le commentaire standard du Drash, il dit Miyad betseto mirechem imo, immédiatement à la sortie du ventre de sa mère, Irgish betsar il a immédiatement ressenti la douleur de l'exil. Sheloya Sarato. C'est que son pouvoir, il ne l'aura que après qu'il l'ait récupéré des Saves. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce petit morceau de Midrash. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer de comprendre du fait que le général lui a posé une question, il aurait pu répondre avec ce verset, il aurait pu. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le fait d'avoir écrit le verset? En fait, après une fois qu'il a écrit le verset, il le lui a lu. Donc, il a lu un verset. Il aurait pu, il lui a pas amené un Sefer Torah, mais c'était important qu'il le présente, il présente sa réponse comme quelque chose qui est déjà écrit. Et puis, il a dû lui expliquer que je te l'ai écrit tel que c'est écrit dans la Torah. Donc, je ne donne pas une réponse que j'ai concoctée maintenant. C'est pas ma sagesse personnelle. Ce que je te réponds, tu vois, c'est quelque chose qui est écrit de toute éternité, quoi, on peut dire. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il est en train de lui dire, Essav, c'est vous. Vous, Rome, vous êtes Essav. Et le texte dit que ce n'est pas une succession qui se fait, il est vu après, quoi. Quelque part, quand deux enfants naissent, deux jumeaux naissent, il y en a un qui naît, et puis quelques temps après, il y a l'autre qui naît. Mais bon, on voit qu'ils viennent du même utérus, ils viennent de la même matrice. Mais ils ne sont pas liés l'un à l'autre. Le paradoxe ici, c'est que le deuxième qui naît, donc Yaakov, il tient le talon du premier. Alors quand on tient quelqu'un par le talon, c'est ou bien qu'on veut le retenir et qu'en fait on voudrait le dépasser, c'est-à-dire on voudrait le ramener à ma hauteur en tirant et puis éventuellement passer devant. Ou bien que on parle d'une continuité vraiment presque essentielle. C'est pas que bon, on est ceux qui viennent après. Bon, c'est normal qu'il y a ceux qui viennent, ceux qui ont vécu un certain moment et puis la génération d'après. Non, ici il s'agit de bien montrer que l'un est presque la prolongation de l'autre. Le talon, c'est la partie la plus basse de la personne qui était devant lui. La partie la plus basse, quand il est debout, par exemple. Donc, c'est l'extrémité, et il tient l'extrémité, il se tient à l'extrémité. Donc, il apparaît presque comme une prolongation de Rome, en fait. Et donc, l'idée, c'est que Yaakov ne viendra que comme prolongation d'Ésav. Et donc, il va falloir, on ne peut pas imaginer que Yaakov arrive autrement que comme prolongation d'Ésav. Il viendra obligatoirement après Ésav. Et alors, parce qu'il vient après Ésav et qu'il est lié à Ésav, c'est ça qui nous donne l'idée de galoute. Bon, qu'est-ce qu'on a à faire avec Rome? Pourquoi Rome est chez eux et nous on est reste Israël? Non. Visiblement, si on est lié, c'est qu'on va être dans la prolongation, et la prolongation, ça veut dire on va être sous la, à un moment donné, on aura été sous la domination des Saves, et puis ensuite, on pourra émerger après, on va venir dans la suite des Saves. Il va falloir que les Saves aillent jusqu'au bout de ce qu'il a à dire, de ce qu'il a présenté, pour que Israël puisse accéder. C'est assez étrange parce que, si on met ça en face de ce qui a été dit à Rivka, il a été dit, Vrav Yavod Seir. Donc, l'aîné, c'est-à-dire Esav, a priori, va servir Yaakov. Où est-ce qu'on voit ici que Esav va servir Yaakov? En quoi est-ce qu'il va servir Yaakov? Alors, est-ce qu'il faut entendre de servir Yaakov, ça veut dire il va faire un travail, il va permettre à Yaakov d'arriver. Comme si en fait cette naissance, cette forme de naissance, elle venait nous dire que Yaakov n'arrivera vraiment au pouvoir, en quelque sorte, que après Esav, c'est après que Esav ait fait le travail, et un travail qui doit être fait par Esav, qui va permettre une condition sine qua non, semble-t-il, pour l'arrivée de Yaakov. Yaakov ne va pas émerger d'ailleurs que de l'après Esav. Il n'émerge pas par lui-même, en quelque sorte. Il arrive de suite après Esav. Oui, il va nettoyer, et ça va, comme on a dit, va nettoyer, il va arranger le monde. Et ça va faire avancer le monde jusqu'à un point où Yaakov va pouvoir se présenter, va pouvoir arriver au pouvoir, semble-t-il. Alors, ce que les gens ont dit, regardez, c'est des paroles anciennes. Et dans la bouche de, je ne vais pas suivre la traduction, dans la bouche d'un zaken, le zaken zeze shekana chokhma, c'est un sage. Mais c'est un sage d'une nouvelle génération qui a compris que il va pas chercher une solution politique en regardant ce que, voilà, vous, les Romains, voilà ce que vous avez fait, etc. Bon, ben, on va venir après vous, d'une manière ou d'une autre. Non. Il est allé chercher et expliquer que c'est pas une succession, ordinaire. C'est une succession qui a du sens. C'est-à-dire, il faut bien se rappeler que ce sont deux jumeaux qui naissent ici. Bon, ça veut dire, c'est pas deux étrangers, c'est pas un royaume étranger qui prend la suite de Rome. C'est Yaakov qui est le jumeau. Et donc, cette idée qu'ils sont jumeaux et que il y a un travail qui va se faire à deux, d'une certaine manière. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire directement. Maintenant, on voit que ils ont déduit aussi autre chose. Pas simplement dans cette forme de succession, mais le fait que quelle souffrance Yaakov endura. Ça veut dire, il a enduré les souffrances. Ça veut dire que c'est une vision quasiment de la fin des temps, là, la succession entre Ésaü et Yaakov. Et pendant tout ce temps-là, pendant tout le temps d'Ésaü, Yaakov était sous le talon d'Ésaü. Et c'est ça qu'ils ont dit. C'est la souffrance de Yaakov quand il est sous le talon d'Ésaü. C'est-à-dire, on a dit que c'était le galout. D'accord? C'est une situation de galout. Une situation très douloureuse, grande souffrance pour Israël, pour Yaakov. Donc, cette succession, elle aura lieu après de grandes souffrances. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un travail qui se fait à deux, entre Ésaü et Yaakov, mais il ne se fait pas à deux. Bon, toi, tu fais ton travail et tu sais très bien que moi, je vais faire le mien derrière après toi. Ah, mais non. C'est un travail que tu fais en vérité pour toi et tu m'écrases. Tu écrases Yaakov. Il est sous ton talon. À la limite, on peut aussi dire que c'est comme ça que Ésaü a dépassé Yaakov. Et on pourrait dire, quand il le tient par le talon, c'est que il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu es en train de faire une queue de poisson, enfin, tu passes devant moi. Surtout si on voit, on avait vu avant, que la réponse qui va être donnée, etc., ou qui a été donnée, et que Yaakov a été créé avant et conçu par la première goutte d'Ésaü, mais comme cette image d'une espèce de tube à essai dans lequel la première perle, elle sortira en dernier. Et quelque part, c'est un peu un problème. La naissance ne reflète pas la conception. Donc, il y a, d'après ça, d'après l'idée, c'est la conception, c'est Yaakov, puis Ésaü, et la naissance, c'est Ésaü, puis Yaakov. Et du coup, ce renversement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en théorie, le modèle, c'est Yaakov, et qui est plus important que Ésaü, mais concrètement, Ésaü doit venir avant. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail de préparation à faire. C'est cette idée que tout a toujours besoin d'une préparation. Il y a toujours une achana. Avant Matan Torah, il y a 3 jours, il faudra 2, 3 jours, il faudra se purifier, se préparer. On ne peut pas comme ça, de but en blanc, arriver. Et ça, c'est le préparateur de Yaakov. Il va préparer le terrain pour Yaakov. Alors certains veulent dire qu'effectivement, Ésaü, christianisme ou l'islam, prépare le monde à reconnaître Hachem. C'est-à-dire, ils voient ça comme un progrès par rapport au paganisme. Il y a les païens qui sont très loin de. Et puis, il y a certains points qui se retrouvent dans l'islam ou dans la chrétienté avec lesquels. Le monde est familiarisé parce que, vu la diffusion de l'islam et la diffusion du christianisme, le monde est déjà Bon, disons, il a déjà entendu parler de certaines choses, il s'est familiarisé avec certaines choses. Moi, je vais raconter que j'ai entendu dire une fois que, au nom de Raymond Aron d'ailleurs, il disait que le marxisme était une ruse de l'histoire pour faire arriver les idées occidentales en Chine. Ils sont arrivés par Mao, les idées de Marx, ce sont des idées. Alors, bon, ça peut se dire, des idées qui sont complètement déformées par le christianisme, par l'islam, par le marxisme, etc. Mais il y a plein d'idées juives dans cette affaire. Donc, ils sont peut-être un peu déformés. Elles sont arrivées jusqu'en Chine. Il n'y a pas tellement de raisons que ça arrive jusqu'en Chine. De façon aussi puissante. Il y a eu des chrétiens en Chine, etc. Il y a des parties de la Chine qui sont musulmanes, dans des Ouïghours, ce qu'ils en pensent. D'accord? Bon, les idées sont arrivées d'une certaine manière, mais avec le marxisme, ça s'est beaucoup plus diffusé, en tout cas, à l'impression. Et il pensait que c'était, bon, il n'a pas dit que c'est des idées juives, mais il n'allait pas dire ça. Encore. Je crois qu'il a dit ça avant que De Gaulle dise ce qu'il a dit sur le peuple. Il m'aurait peut-être dit différemment après, mais bon.
Il n'y a pas un problème de difficulté à l'arrivée. Et ça, parce que ça, le de
On parle de la tchouva d'Ishmaël, on parle jamais de la tchouva des sages, enfin, à ma connaissance. Il y a une préparation des idées, quand même, il y a quand même certaines idées, et ça, il a quand même une tête qui est dans Marpella. Donc, ça veut dire qu'il a fait beaucoup de choses qui sont interdites, mais il y a chez Esav des choses qui sont des valeurs de son père, d'Israël. Ensuite, le passage dit Vaigdelou anéarim. Les garçons ont grandi. Alors le Midrash dit, Rav Pinchas, au nom de Rav Lévi, il donne un machal, une parabole. Ils disent que c'est un myrte et un buisson de ronces qui croissent côte à côte. Quand ils ont poussé, ils fleurissent, l'un exhalant son parfum, l'autre exhibant ses épines. De même, jusqu'à l'âge de 13 ans, jusqu'à la bar mitzvah, tous deux allaient à l'école, tous deux rentraient, et passé 13 ans, Yaakov a fréquenté les maisons d'études et savent les temples idolâtres. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit que la grande erreur de Yitzhak et Rivka, c'est d'avoir éduqué les deux enfants de la même manière. Peut-être, c'est ce qu'il dit ici. Ils allaient à l'école, ça veut dire tous deux allaient à l'école. Ils allaient à la même école. Ils faisaient la même chose, même école, retourner à la maison, etc. Et Hirsch dit que c'est une erreur fondamentale. Parce qu'on a vu tout de suite que Esav et Yaakov n'avaient pas du tout le même tonus, la même, pas du tout la même trajectoire, visiblement. Donc, il aurait fallu envoyer chacun dans une école ad hoc. Et on les a envoyés tous les deux à la même. Alors, Est-ce que ça a raté pour tous les deux ou bien est-ce que on les a envoyés dans une école qui était faite pour des gens comme Yaakov et ils savent bien sûr c'était pas adéquat pour lui, mais est-ce qu'elle était adéquate pour Yaakov? J'en sais rien. Yaakov, il s'est développé, mais peut-être que il se serait développé de façon plus parfaite s'il avait été dans une école ad hoc. Je sais pas, on sait pas. C'est facile de dire que l'école de Yaakov n'était pas bonne pour Essa, je comprends bien, mais l'école d'Essa n'était pas bonne pour Yaakov non plus. Mais est-ce que Bichlal, l'école qu'ils ont trouvée, c'était une école qui était bonne pour l'un ou l'autre? Ça veut dire l'école. C'est pas l'école. Non, ça veut dire, en fait, c'est quoi leur école? Leur école, c'est ce qu'ils ont appris en dehors de chez eux. En dehors de chez eux, ça veut dire qu'ils ont dû aller dans une école qui dépendait de la yeshiva de Shem Hever. Et par ailleurs, ils ont appris chez leur père et leur grand-père. Maintenant, est-ce que c'est seulement une façon de dire qu'ils ont eu la même éducation? Il n'y avait pas le choix, probablement, pour savoir dans quelle école, chez qui ils allaient apprendre. Mais peut-être qu'on aurait dû. Est-ce que ce que le Midrash veut dire, qu'ils allaient tous les deux à l'école et tous les deux revenaient, c'est une façon de dire, comme suggère Rav Hirsch, qu'ils ont été éduqués de la même manière. Même par les. Ça peut être par les mêmes éducateurs. Mêmes éducateurs, est-ce qu'ils ont, ils n'ont pas tenu compte de la spécificité de chacun? Et ça a un peu l'air d'être le cas dans le. Alors, sauf que la parabole, elle est un peu méchante. Parce que quand tu dis que c'est un myrte et un buisson d'épines, enfin, dès le départ, c'était déjà un buisson d'épines. Bon, premièrement, on peut dire, si on voulait, on pourrait dire que le myrte, ben ça vient d'Yitzhak. Un buisson d'épines, ça vient de Rivka. Rivka, c'est la rose qui a poussé parmi les épines. Mais qu'est-ce qu'elle peut donner? Elle porte en elle, comme j'ai dit, une rose, c'est une épine qui a mal tourné. Donc, elle produit des ronces. Les ronces donnent des ronces. Peut-être les roses, elles donnent aussi des épines. Après le Midrash, et si on tient compte de ce que dit Rav Hirsch, si on doit faire pousser un buisson d'épines et qu'on n'a pas envie d'avoir que les épines, il faut trouver un moyen de le faire pousser pour qu'il donne des roses. Il va pas devenir un pommier, je veux dire. Si c'est un buisson d'épines, ce qu'on peut espérer de lui, c'est qu'il donne des roses. Donc il faudrait trouver comment on fait pour produire des roses à partir des épines, d'un buisson d'épines. On n'a pas expliqué comment c'est arrivé. C'est quand même arrivé chez Bethuel. Bon. Les roublards. Un lieu de roublard, comme on a vu dans le Midrash, un lieu de roublard, des parents roublards, un frère roublard, et il pousse une rose. Je sais pas comment c'est arrivé. Donc on ne sait pas non plus probablement comment produire une rose quand on a un buisson d'épines. Donc en réalité, si tu dis que Esaf, c'est un buisson d'épines, ben, qu'est-ce qu'on pouvait faire alors? Qu'on fait un buisson d'épines, il faut quoi? Faire une violence et raser le buisson, et qu'est-ce qui va pousser à la place? Pour des épines de nouveau, même quand il aura rasé, sans raser le truc, et après. Donc c'est un peu une question, d'accord, ça a poussé normalement, et le myrte il va donner, bon, il va exhaler son parfum, très bien. Donc, si vous voulez, le Midrash, il est un peu étonnant quand même. Parce que on a l'impression que on ne pouvait rien faire si dès le départ, c'était un buisson de ronces. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que un buisson de ronces, ça peut avoir une utilité. Si on veut en faire une barrière, si on veut éventuellement se protéger d'une agression extérieure, ben un buisson de ronces, c'est une bonne protection. C'est des barbelés, quoi, si vous voulez. Et peut-être il a fallu, est-ce qu'il aurait fallu éduquer ça de en sorte qu'il devienne une barrière? Une barrière, pourquoi? Pour son frère. Si Yaakov est comparé à un myrte, il n'a aucun mérite à produire du parfum, quoi. Bon. L'éducation n'a servi à rien, quoi. On n'a pas produit quoi que ce soit de particulier. On s'est occupé du myrte en question. C'est tout. La poussée. Rabbi Elazar dit, un homme doit prendre soin de son fils jusqu'à sa 13e année. Quand il aura passé 13 ans, qu'il dise, il passe la bracha. Béni sois-tu qui m'exonère désormais de son châtiment. C'est-à-dire qu'un père responsable de son enfant jusqu'à 13 ans, donc en fait ça veut dire que Yitzhak était responsable, Yitzhak et Rivka sont responsables des sables jusqu'à 13 ans, ils sont responsables d'un de ce fameux buisson de ronces. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Comment se fait-il qu'après 13 ans, Yaakov fréquente les maisons d'études et savent les temples idolâtres? Alors on peut dire. C'était toujours là potentiellement. Même quand ils étaient dans le ventre de leur mère, c'était comme ça. Et ça, ils voulaient sortir quand elle passait devant un temple idolâtre. Et c'était Jacob qui voulait sortir quand elle passait devant une maison d'études. Donc, c'est quoi? C'est génétique. Il ne s'est rien passé. L'éducation n'a servi à rien. L'éducation n'a pas. Il a continué d'aller à la maison d'études, c'est bon, c'est tout ce qu'on peut espérer. Un bon garçon. veiller à ce que ça dérive pas, quoi, c'est tout. Et si c'est mauvais, ben, on ne peut pas faire visiblement. Alors ensuite, on nous dit que Ésaü était, il était Yodéa, il savait chasser. Alors, a priori, la tseida, le fait de chasser en soi, Ishyodéa Saïd. Le Midrash, il va tout de suite. Il lit pas la chasse au sens la chasse, chasser les animaux. Le Midrash, il dit, il prenait les hommes au piège de leur propre bouche. C'est-à-dire, il disait à quelqu'un, hein, toi, n'as-tu pas tué? Qui donc a tué avec toi? Tu n'as pas volé, mais qui donc a volé avec toi? Ça veut dire que ils prenaient les gens au piège de leur propre bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un était accusé d'avoir tué, il arrivait à les embrouiller. Ça disait qu'il ne leur demandait pas est-ce que tu as tué ou pas tué, il demandait mais qui a tué avec toi? Dans l'espoir que l'homme disait, mais il n'y avait personne, ou bien c'est lui, etc. Comme ça, il se marche sur la barre tout de suite. C'est comme s'il disait, oui, j'ai tué, comme ça. Donc c'est toujours une ruse. Ça, le prenait les gens au piège de ce qu'ils disaient eux-mêmes. C'est-à-dire, en fait, il arrivait à se faire en sorte que les gens s'accusent eux-mêmes sans se rendre compte. Donc la première chose, c'est les savants ont dit, ils chassaient les gens, ils chassent les hommes, comment? En les faisant trop parler, quoi, quelque part. Il les oblige à parler, il les amène là où il veut les amener. Sans qu'ils s'en rendent compte. Par coup, ils vont répondre à la question, mais qui a tué avec toi, qui a volé avec toi? Et ils risquent de répondre à ça sans se rendre compte que, ce faisant, ils s'accusent eux-mêmes. Et c'est ça, c'est la ruse. Dans la chasse, il y a aussi la ruse. Il faut arriver à ruser avec l'animal. Il faut l'amener où on veut l'amener. Abi Abaoudi, c'était un chasseur et un rustique, ils ont dit. C'est-à-dire, en fait, ils tendaient des pièges dans la maison et dans les champs. Alors, des pièges dans les champs, on comprend. Voilà. Il y avait des pièges et. Et le Midrash, il n'a pas du tout. C'est marqué. Il était Ishsadé, un homme des champs. Alors le Midrash dit, il reste entièrement au niveau de la parole. Le Midrash. Il dit quels étaient les pièges qu'il tendait à la maison, À la maison, ils demandaient comment apprêter le, comme ça qu'ils ont traduit, comment apprêter le sel avant le repas. En vérité, ils demandaient est-ce qu'on prend maaser, comment on prend maaser du sel. Et en ce qui concerne les champs, ils demandaient comment on prend maaser de la paille. Alors on sait, la halakha, elle est que ni le sel ni la paille. Ni sur le sel, ni sur la paille, on prend maaser. Alors, la question que j'en dis, que poser des questions, tout le monde sait qu'on ne prend pas maaser. Il me semble qu'il faut lire ça un petit peu différemment. Il me semble que réfléchi. Le maaser, on prend donc la dîme de ce qui est produit par la terre. La terre d'Israël, elle produit, et sur ce qu'elle produit, tu vas prendre maaser, tu vas prendre la dîme, tu vas donner ce maaser aux Lévis. Donne ça aux Lévis parce que les Lévis, ils n'ont pas de territoire. Parce qu'ils sont requis de servir au Beth Amikdash. Donc, tu apporteras ça, c'est entre autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, comment on prend le maaser sur le sel? Ça veut dire d'abord qu'il pense, il pose une question dans laquelle on entend que lui, il pense il faudrait prendre le maaser sur le sel. Il me semble que ça peut très bien se défendre, l'idée qu'il faudrait prendre le maaser sur le sel. Le sel, absolument fondamental dans tout, en particulier toutes les conserves, ils pouvaient se faire qu'avec du sel à ce moment-là. Vous voulez garder quelque chose, il fallait un sel. Et à part ça, tu veux que la nourriture, elle donne son goût, etc. Il faut du sel pour, pas pour que ça soit salé, mais même pour que ça donne vraiment son parfum, etc. Comme révélateur de. Et par conséquent, que le sel joue un rôle tellement important dans la nourriture. Le sel, on sait, c'est tellement important qu'il y a eu un moment où le sel, c'était la monnaie. Quand on voulait acheter quelque chose, on payait avec du sel. C'était tellement fondamental. Alors, qu'on prenne du maaser du sel, ça ne me paraît pas du tout, du tout. Idiot, ouais. Pas du tout. Et que la question c'est comment est-ce qu'on va, c'est quoi, tu vas prendre sur 1 kilo de sel, tu vas donner 100 grammes de sel au Lévi, ou bon, on peut demander comment on prend, est-ce que c'est en volume, est-ce que c'est en poids, est-ce que c'est, bon, le sel, on n'en met pas des quantités astronomiques, donc on comprend bien, et en plus ça dépend si c'est du, qu'est-ce que c'était, du sel gemme, probablement qu'ils avaient à ce moment-là, c'est une pierre, pas qu'il faut casser. Comment est-ce que, bon. D'autre part, ça c'est pour le, c'est la question qu'il posait. Et donc, on dit qu'il posait cette question à son père. Et certains veulent dire qu'il trompait son père en faisant comme si lui, il était vraiment dans la réflexion, etc. Mais il était peut-être mis dans la réflexion là-dessus. Mais c'est-à-dire au sens de, bon, moi, je ne fais pas obligatoirement très attention, mais si déjà, de quoi il va parler avec son père? De savoir comment il a piégé le dernier cerf ou je ne sais pas quoi. Il a parlé avec son père, le langage que son père. Bon, lui, son père va faire un effort pour parler avec lui, et lui va faire un effort pour parler avec son père, c'est normal. Maintenant, la paille aussi, c'est fondamental. Je ne parle pas de toutes les litières, etc., qui sont là. Ça, quand tu veux fabriquer du fumier, tu as besoin de la paille aussi. Et puis, la paille, elle joue un rôle fondamental, parce que s'il n'y avait pas la paille, les rongeurs, ils auraient bouffé tout le blé, tout ce qui pousse sur les tiges, ça serait bouffé par les rongeurs. D'accord? On n'aurait rien de tout ça. Donc la paille, c'est une condition sine qua non. Donc, et comme ça a un usage après, en tant que paille, donc paille, ça a toutes sortes d'usages, pourquoi on ne prendrait pas le maraissin de la paille? C'est pas une nourriture, mais c'est un support de nourriture. Comme le sel n'est pas une nourriture, mais c'est un révélateur, c'est un conservateur, etc. Aujourd'hui, on est très, très conscient de. Il y a aucun produit qui n'est pas vendu avec sans conservateur, sans. Etc. C'est le rôle du sel, quoi, pratiquement. Bon, on a trouvé des. Aujourd'hui, on a d'autres conservateurs. Donc, il me semble que la question qu'il pose, c'est une question sur pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté seulement au niveau de la nourriture? Et finalement, on voit bien qu'on ne s'est pas vraiment arrêté au niveau de la nourriture, puisque on va prendre Maaser de l'argent, on va prendre Maaser sur son revenu, on va prendre un Maaser aussi. Voit très bien que ce qui va servir. Même si on ne le mange pas l'argent comme ça, mais joue un rôle fondamental, même du rôle que le sel à un certain moment. Bon, le sel était une monnaie, un moyen, ouais, une forme de monnaie. En quoi c'était différent de nous qui pouvons masser sur l'argent? Alors on dit que c'est présenté. Comme si c'était des pièges. Où est-ce que c'est un piège? Est-ce que le piège, c'est uniquement. Non, n'est un piège que parce que, en faisant croire qu'il s'intéressait à ces questions-là, il se présentait comme vraiment respectant et ayant une réflexion sur le sens de des mitzvot, etc. Donc, il trompait sa mère, enfin, les gens auxquels il posait ce genre de questions. C'est un piège. C'est un piège, c'est une tromperie. Pourquoi dire que c'est un piège? Tromper les gens. C'est un piège de. Les gens étaient piégés parce qu'ils le prenaient pour ce qu'il n'était pas. C'est ça l'histoire. Ou bien c'est qu'ils posaient des questions auxquelles on ne savait pas très bien répondre, peut-être. Ce n'est pas évident de dire pourquoi, effectivement, pourquoi on ne prend pas le maaser de la paille. Rabbi Baraba, il s'offrait au tout venant comme un chant. Eux, ils ont dit, il avait renoncé à soi, à son corps, comme on renonce à la propriété d'un chant. Les fils d'Israël, les Bnei Israël, s'adressèrent à Kadosh Baruch Hu et lui ont dit, Ribono shel Olam, maître du monde, ou des mondes. N'est-ce pas assez que nous soyons soumis à 70 peuples? Il faut encore que nous soyons soumis à cet homme qui laisse user de son corps comme une femme. Et Akadosh Baruch Hu a répondu, c'est dans les mêmes termes que je me vengerai de lui. Je me mangerai de lui parce que, comme c'est marqué dans le dans un passouk du Navi Irmaya, c'est le cœur des vaillants d'Édom, donc a priori le cœur des soldats des Sabres, est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Donc c'est ça la vengeance d'Hachem, dans les termes de une femme en travail, alors que lui, il a laissé user de son corps comme une femme. Alors, si on regarde le texte ici, le Midrash dit, quand on dit il s'est usé de son corps comme une femme, c'est-à-dire qu'en vérité, il avait des comportements homosexuels. C'est ça qu'il dit. Parce que dans le texte lui-même, c'est un peu compliqué parce que ça veut dire que Hachem va se venger de lui, justement de cette manière-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les soldats qui auraient dû se comporter évidemment comme des hommes vont se comporter comme des femmes. Ils sont complètement dans les vapes, quoi, quelque part, complètement ailleurs, comme une femme qui est en travail. Donc, c'est pas quand une femme est en travail, elle est en train d'accoucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils vont être complètement perdus, quoi. Ils vont. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les bénis Israël? Ils disent, est-ce que c'est pas suffisant que nous soyons Meshoubadim aux 70 peuples? Alors, est-ce que les bénis Israël sont Meshoubadim aux 70 peuples? On était Meshoubadim à certains peuples qui nous ont réduits en esclavage, mais on n'a pas été Meshoubadim à tous les peuples. Et a priori, dans les situations où on a été en galoute, même disons que les galouyotes représentent, c'était pas 70, mais ils représentent les autres peuples. On a été soumis aux autres peuples, mais en fait, si on a été en galoute, c'est parce qu'on a fait des fautes. Ça veut dire, n'est-ce pas assez qu'on soit soumis à 70 peuples? C'est quoi, à quel titre on est soumis à ces peuples? On a été soumis quand on n'a pas fait, on a choisi de ne pas se soumettre à Hachem, alors on a été soumis au peuple. Il semble-t-il être soumis aux autres peuples, c'est déjà OK, ça va? Mais lui, c'est spécialement insupportable. Et pourquoi c'est insupportable? Pourquoi c'est insupportable? Parce qu'il est mafkir son corps de pratique d'Ibelette, c'est bien. Priori, ça, c'est quelqu'un qui s'est imposé, qui a violé les femmes, qui qui a tué les hommes, etc. Et là, tout à coup, on ressort quelque chose du genre, ouais, non, mais il s'est laissé aller comme une femme. Si et Sam, c'est Rome, par exemple, est-ce que Rome s'est laissé aller? De quoi on parle aussi? Pourquoi est-ce que s'il y avait à Rome, ce qui meurt, c'était bon, c'était dissolu, alors c'est ça le problème? Enfin, le problème, c'est que ceux qui pratiquaient de manière sexualité, c'était les Grecs, systématiquement, d'accord. Bon, est-ce que ça a continué chez les Romains? Je ne sais pas bien l'histoire, je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que ça nous dérange plus? Je veux dire, pourquoi est-ce que ça nous dérange particulièrement? Se conduisent mal, ok, d'accord. Et donc, d'être soumis à des gens qui en fait, ne devraient pas pouvoir nous soumettre parce qu'ils ne se conduisent pas du tout comme des hommes. Mais où est-ce qu'on voit ça dans Essav? Ou est-ce qu'on a vu dans Essav quelque chose de ce genre-là? Je n'ai pas vraiment bien compris, en fait.
C'est pas une notion de mensonge, en fait, que c'est un menteur.
Alors?
Il fait, et que c'est pas un menteur, en fait. Il fait voir quelque chose, mais en fait, ses valeurs, ses véritables valeurs, sont pas du tout celles qu'il fait apparaître. Il montre une belle facette à son père ou à sa mère de son vivant, mais en annonçant le dos tourné que c'est un pourri. C'est ça qu'on nous montre de lui. Est-ce qu'on ne veut pas montrer que c'est un menteur?
Pourquoi est-ce qu'on nous parle de lui?
J'ai
Pourquoi
pas
est-ce que
entendu.
ça nous dérange plus d'être soumis à un peuple qui a un peuple humain supposé, je n'arrive même pas à le retrouver dans les Saves, mais même à supposer, vous comprenez ce que dit ici ce Midrash, je ne comprends pas en quoi est-ce que c'est plus ennuyeux d'être soumis à ce peuple plutôt qu'à un autre. Et en plus, Hachem leur répond, d'ailleurs, vous avez parfaitement raison, mais je le ferai payer de cette manière-là.
Est-ce que je peux dire quelque chose, Rav?
Bien sûr.
Moi, je pense que ça nous renvoie au déluge.
Il y a beaucoup d'échos.
Je dis,
Ici,
je
on
pense
pas
que
vraiment,
ça
on comprend
nous
pas ce que vous
renvoie,
avez dit.
je pense que ça nous renvoie au déluge. Le fait qu'on soit mal à l'aise, ça nous renvoie au déluge.
Vous avez compris? Ah, au déluge.
Oui, au déluge.
Mais on n'a pas été soumis assez au peuple du déluge. Le déluge, c'est avant Matan Torah, il n'y a pas d'Israël à ce moment-là.
Oui, mais quand
Donc,
même, il s'est passé des choses quand...
non, vous avez raison, il s'est passé ces choses-là à l'époque du déluge, vous avez parfaitement raison. Mais en fait, ça ne concerne pas Essav. Essav, il est des générations après tout
Oui,
ça.
mais le mal-être peut être transmis sur plusieurs générations. Et ce qui s'est passé après, quand ils sont sortis de l'arche, vous savez très bien ce qui s'est passé. Et cela nous renvoie vers quelque chose d'un mal-être de sortir de cela. Parce qu'il y a une sortie quand même de Ésaü et d'Ésaü de quelque part. C'est d'ailleurs un déluge d'être soumis à un peuple. Vous pensez aux Grecs.
Et Ram, pourquoi il faut que dans cette relation Ésaü et Yaakov, il faut que Yaakov soit soumis? Pourquoi, en fait, cette soumission, elle est...
Premièrement, cette soumission, Yaakov l'a organisée lui-même quand il a rencontré Ésaü. Il lui a donné du Adoni, Adoni, Adoni. Hazal sont très très mécontents de cela. Il l'a appelé mon Seigneur, quand on servit ça. Il s'est installé dans la posture de celui qui est totalement dépendant de son maître, qui est Ésaü.
Et ça,
Et c'est dans la
c'est après.
rencontre de. Donc c'est lui qui l'a choisi, en fait. Il a choisi
Oui, mais
cette
là, on est
situation.
avant. On est avant la rencontre avec Essa.
Pardon?
Là, on est avant la rencontre avec Essa, parce que c'est à la naissance, il tient le talon.
Non, mais là. OK, mais quand on parle de Ésaü, la soumission de Ésaü, c'est pas la naissance.
Alors, qu'est-ce que ça veut
C'est une
dire le...
vision de tout ce qui va se passer par la suite entre Yaakov et Ésaü, bien sûr. Alors, la seule chose qu'on puisse un peu comprendre ici, ce serait cette idée qu'en vérité, Ésaü. Il y a deux possibilités. Ou bien on considère que Ésaü, il représente tous les peuples, en fait. Quand la règle, elle est qu'il y a 70 peuples et il y en a deux qui sont en tête, qui sont Ésaü et Ishmaël. Et chacun représente 35 des 70 peuples. Et on parle d'Ésaü, en vérité, on parle d'Ésaü. En même temps, en vérité. Et comme Ésaü les représente tous, on peut dire que Ésaü a perdu sa singularité en quelque sorte, et il reçoit toutes les civilisations. Alors on pourrait le dire un petit peu sur Rome, dans la mesure où Rome, effectivement, par exemple, les Romains, ils ont accepté de mettre dans leur l'équivalent de leur panthéon, quoi. Ils ont accepté toutes les divinités. Tout le monde était accepté. Tout le monde pouvait mettre sa divinité. Tout était permis. Il n'y avait pas de spécificité de pensée romaine. Certains disent que c'est pas. Je sais pas. Je connais pas ça, la civilisation romaine. Mais de toute manière, je pense que c'est ça que ça veut dire. C'est que Ésaü, il a pas de personnalité. Finalement, il a été modelé par tous les peuples. Il représente tous les peuples, mais du coup, il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de vrai programme, en quelque sorte, d'Ésaü. Il a perdu sa spécificité, celle qu'il avait à la naissance. Il était finalement Ésaü, dans le Zohar, dans le Essav, il est appelé Israël Moumar. Donc c'est un Israël quand même. Moumar, mais c'est Israël. D'accord? Il y avait. Tandis que maintenant, si tu dis que Essav, c'est celui qui représente tous les peuples, alors il est comme quelqu'un qui est en fait ensemencé par toutes les autres civilisations, quoi. On peut aussi dire que Essav, dans son histoire, il prend toutes sortes de formes. N'est-ce pas? Essav, au temps de la Gemara, c'était Rome. Après, ça a été la chrétienté. Après, ça a été éventuellement le communisme. Aujourd'hui, certains dynamiques. Tout ça, c'est toujours Essav. Donc, justement, il a de spécificités. Il peut adopter eh ben, un peu celui qui lui rentre dedans, quoi, quelque part, celui qui va jouer le rôle d'Essav. Donc, c'est probablement ça l'image de cette femme qui est quasiment la femme de tout le monde, quoi, quelque part. À la disposition, elle est FKR complètement, tout entre, tout va rentrer dans Essav. Alors c'est probablement ça qu'on veut dire. C'est-à-dire que qu'on soit soumis au peuple, ils ont une spécificité, on sait, voilà à quoi on doit se mesurer, contre quoi on doit lutter. Et quand tu dois lutter contre Essav, c'est presque un caméléon, quoi. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on a d'autres problèmes avec Essav. D'une certaine façon, vous voulez, ce qu'on dit, c'est que le quatrième exil, qui est l'exil d'Édom, c'est un exil durant lequel les problèmes qu'on avait dans les trois autres exils se sont reposés, mais tous en même temps. Et donc, l'interaction entre ces différents problèmes a créé des nouveaux problèmes. C'est-à-dire que même si on considérait qu'on a plus ou moins réglé les problèmes à chaque fois dans chacun des trois autres exils, mais maintenant, quand les problèmes viennent tous ensemble, alors ça donne une complexité nouvelle et ça pose des tout nouveaux problèmes qu'on n'a pas su résoudre jusqu'à présent, en fait. Et c'est ça, en fait, cette espèce de. C'est comme si il n'y avait que des bâtards, vous entendez. Bon, il y a plus, tout est mélangé, en fait. Il n'y a plus de spécificité. Ils sont capables de tout à la fois. Et comme ils sont capables de tout à la fois, alors ils nous ont tout à la fois aussi. À la fois, on a accusé les Juifs à cette époque d'être en même temps les capitalistes et les communistes. D'accord? En même temps. On disait, le capitaliste, en même temps, les communistes. Alors c'est vrai qu'il y a eu de tout dans le cas Israël. C'est vrai. Et peut-être que justement, les problèmes que ça nous pose sont des problèmes quasiment insolubles. C'est ça que les Bnei Israël disent en se plaignant. Ils disent non seulement on a affaire à 70 peuples, d'accord, on peut. Il y a 70 problèmes qui se posent. Et maintenant, il faut encore avoir affaire à lui, alors que lui, c'est n'importe quoi, c'est tout à la fois. Il accepte tout. Hachem a dit, bon, c'est vrai, il accepte tout, alors, effectivement, cette image d'une femme en travail, effectivement, ce sera la façon dont les guerriers d'Édom vont être complètement battus parce que ils seront comme une femme en travail, en fait. Ça, c'est sûr. Et sur Yaakov, Yaakov était un homme, Ishtam, Yoshev Ohalim. Tam, ça veut dire entier, simple. Simple, pas simplet. Simple, ça veut dire simple comme un corps simple. Chimique. Et habitant Ohalim, les tentes. Comment ça se fait qu'il était dans plusieurs tentes à la fois? Alors le Midrash dit deux tentes, effectivement. Ohel, c'est un endroit où on étudie. Ohalim, c'est deux endroits où on étudie. Alors, il était à la fois dans le Beth Amidrash de Shem et dans celui de son petit-fils Ever. Alors, ça, c'est intéressant de considérer que ce sont deux. Ici, le Midrash dit que ce sont deux Beth Midrash différents. La vérité, j'avais toujours pensé que c'était le même, simplement que Ever, c'est quelques générations après. Donc, Shem a commencé un Beth Amidrash et ensuite c'est son descendant, Ever, qui a continué. Alors, c'est peut-être pas faux, simplement c'est que on n'a pas étudié la même chose à l'époque de Shem et à l'époque de Ever. Et Yaakov, lui, il a étudié chez Shem et a étudié chez Ever. Ça veut dire qu'il a étudié auprès de Shem, qui est un, souvenez-vous, qui est un antédiluvien, qui est à la fin de, après le déluge, il s'est d'une certaine manière enfermé dans une espèce de tour d'ivoire. Il était très impressionné par Abraham Avinu. Et donc, il a pu en donner un enseignement encore riche des expériences d'avant le déluge, quoi, quelque part. Et puis ensuite, il y a son petit-fils. Donc, lui, c'est déjà beaucoup plus moderne. C'est justement, il a reçu de Shem, est-ce qu'il l'a transformé pour donner un enseignement à lui? Je ne sais pas spécifiquement dire quel était l'enseignement spécifique de Shem ou de Ever. Une chose qu'on dit en général, c'est que quand Yaakov va partir pour aller chez Lavan, il va, comme vous le savez bien, il va passer 14 ans dans la yeshiva de Ever. Et on s'était toujours demandé qu'est-ce qu'il est allé étudier là, lui qui avait étudié chez Abraham et chez Yitzhak. Est-ce qu'il y a encore à étudier chez Ever, même s'il y a un enseignement de Shem encore? Alors on avait dit qu'il avait appris Torah Tagalout, la Torah du Galout, c'est-à-dire il avait appris comment il fallait se conduire quand on était en Galout, c'est-à-dire quand on était au contact des goyim, mais pas en position d'égalité avec eux, en position de soumission, c'est-à-dire il nous domine. Il est arrivé chez Lavan et il est complètement dépendant de Lavan, même si en fait il s'est pas laissé manger par Lavan. Mais concrètement, il est chez Lavan, il n'a pas un sou, il n'a pas de quoi manger. Il a pas de quoi payer pour acheter des épouses. Donc, il est dépendant, il est obligé d'accepter des conditions qui sont tout à fait scandaleuses que lui impose Lavan. Donc cette Torah-là, alors je ne sais pas en quoi Ever ou Shem étaient qualifiés pour enseigner ça. Je ne sais pas. Mais ce qu'on dit, ça, il ne l'a pas appris chez Yitzhak, son père, et un peu chez Abraham était plus indépendant et Yitzhak était totalement indépendant. Voilà, on va s'arrêter là.